Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les analyses, les résultats, vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. On attend également vos appels. Pour cela, composez le 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir pour parler football, on va saluer à Libreville l'auteur du coup de sifflet, Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également à Paris Christian Mpanzou qui suit l'Euro pour VOA Afrique. Bonsoir Christian.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs.
On va faire un coucou également à Dakar, Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Oui, on va tenter la connexion avec Boïcon au Bénin pour retrouver Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, bienvenue à Boïcon et à tous les auditeurs de la VOA également.
Allez messieurs, je vous le disais évidemment, un Sporama qui va être largement consacré à l'Euro 2016. Hein. La planète football a les yeux rivés sur le vieux continent, puisque depuis le 10 juin, le coup d'envoi de l'Euro 2016 a été donné. Il a été inauguré par la victoire un peu pénible de l'équipe de France face à la Roumanie. 2-1, depuis quelques matchs ont eu lieu, notamment dans les groupes B, C et D aujourd'hui. Évidemment, il y a eu des violences, on va en reparler également à Marseille, hein, qui se souviendra longtemps du passage des hooligans anglais et russes qui se sont affrontés dans le centre-ville. Mais on va d'abord parler du ballon rond, on va parler des matchs hein, de ce lundi dans le groupe E. Et c'est une petite surprise déjà, puisque l'Irlande a tenu en échec pardon, la Suède, un but partout. Et encore, il n'y a eu que des Irlandais qui ont marqué dans cette rencontre. Et Houlahan qui avait ouvert le score juste après la seconde mi-temps, juste après la fin de la première mi-temps à la reprise, à la 48e minute, d'une magnifique frappe. Et finalement, c'est Clark qui a marqué contre son camp. Un partout, la bande à Zlatan, Christian Mpanzou, les Suédois qui sont accrochés d'entrée, c'est un petit bémol. Hein.
Oui, c'est un gros bémol vu la difficulté qu'ils vont affronter pour la suite du groupe. On rappelle qu'ils sont également dans le groupe de l'Italie et de la Belgique qui s'affrontent en ce moment même. Le match vient de débuter. Pourtant, tout était prêt pour Zlatan. Il était en quelque sorte dans son stade. Le Stade de France, c'est un peu son stade d'adoption en plus du Parc des Princes où il évolue avec le PSG. Lors de son dernier match au Stade de France, il a quand même mis un doublé hein, avec le PSG. Donc il est résolument à l'aise sur cette pelouse. Mais là, entouré de ses coéquipiers suédois, il s'est confronté à un véritable mur. Les Irlandais ont vraiment fait un pressing défensif et sont vraiment montrés très coriaces devant leur surface face à Zlatan Ibrahimovic, un Zlatan qu'on n'a pas énormément vu durant la rencontre.
Merci beaucoup hein, Christian, et vous l'avez dit hein, depuis quelques minutes, 5 minutes maintenant à Lyon, 0-0 entre la Belgique et l'Italie. Jules Valentin Goué, on en parlera évidemment avec vous sur l'antenne de VOA Afrique. C'est un peu la première vraie affiche de cet Euro. On a eu peut-être Allemagne-Ukraine ou encore Angleterre-Russie, mais là c'est peut-être deux équipes vraiment au niveau similaire, Belgique-Italie selon vous.
Oui, c'est la grande affiche pour le moment, mais c'est aussi un match donc, qui oppose des équipes peut-être reconnues et une équipe qui confirme son leadership sur le football mondial, la Belgique, l'Italie qui a le nom, mais qui est un grand pays de football et malgré en quelque sorte une génération peut-être un peu moins douée, ce pays peut toujours faire mal à tout moment. Donc c'est réellement la grande affiche, la première grande, très grande affiche que nous avons pendant cette Euro 2016.
Oui, Amdinsi, à Dakar, on le disait, la Belgique, hein, très très haute dans le classement FIFA, mais en compétition internationale, pour le moment, ça n'a pas forcément brillé hein, sur les 15-20 dernières années. Vous attendez quelque chose des Diables Rouges, évidemment, emmenés par Eisen Hazard.
Tout à fait. Nicolas, c'est lors des grands matchs qu'on reconnaît quand même les grandes équipes. On va voir ce que cela va donner, mais c'est le premier grand choc de l'Euro.
Alors attendez, Amédine, ce qu'on va faire, on a un petit souci, on a un petit souci de téléphone pour vous entendre, Amédine. On va vous reprendre juste après. On va poser la question à Élisée Oumpatine. Élisée, on le disait, les Diables Rouges d'Eden Hazard vont-ils vraiment pouvoir aller loin dans cette compétition? Ils ont souvent des joueurs de talent, ils sont souvent bien placés, mais pas forcément jusqu'en finale. Est-ce que vous pensez que ça va être l'année de la Belgique?
Oh,
peut-être, Nicolas, puisque ce sera la première fois que ces Belges auront un tournoi à leur portée, c'est vrai. Il y a de cela 2 ans, lors du Mondial, eh bien, c'est une équipe qui était pratiquement en reconstruction, mais cette fois-ci, on a de très grands joueurs. Après la génération de 84, celle d'Enzo Schifo, qui est allé jusqu'en demi-finale de l'Euro, qui a eu lieu, on se rappelle encore en France, puisque battu en demi-finale par les Français. La génération de 2002 de Marc Vilmot, actuellement sélectionneur de cette équipe belge, éliminée en 8e de finale de la Coupe du Monde, bien. Eden Hazard a beaucoup de potentialité avec d'autres joueurs, également Kevin De Bruyne. Cette génération pourra faire parler d'elle. Maintenant, est-ce qu'elle a le niveau? C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de bon niveau. Maintenant, est-ce qu'en équipe, est-ce que ça peut tourner? C'est un grand test cet après-midi, justement contre l'Italie. L'Italie qui se base sur la défense de la Juve, une défense qui encaisse peu en championnat. Donc, ce sera un grand test pour cette équipe. Donc, si elle veut remporter cette Coupe d'Europe, c'est maintenant à jamais, c'est de battre cette équipe italienne souvent difficile à manœuvrer.
Merci beaucoup, Élisée. On a retrouvé Amdinsi. Amédine, on le disait, est-ce que vous pensez que ce sera l'année de la Belgique?
Oui, Nicolas.
Oui, je vais reposer ma question, vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que vous pensez que ce sera l'année de la Belgique dans cet Euro 2016?
Oui, je le pense, Nicolas, parce que c'est la première fois que la Belgique fait partie quand même d'un des favoris, parce qu'ils ont une génération dorée. Le confrère l'a parlé tantôt, des joueurs comme Eden Hazard, des joueurs comme De Bruyne, mais c'est de très grands joueurs qui ont montré toute leur classe dans les différents championnats européens. Maintenant, avoir des joueurs, ça ne veut pas dire avoir une équipe, il faut des résultats, parce que ce qui est bizarre, la Belgique est favori aujourd'hui devant l'Italie qui a tout gagné, alors que la Belgique n'a encore rien du tout gagné. Donc il faudra le prouver sur le terrain, sur le rectangle vert, avec le ballon rond, il faut prouver qu'on est meilleur. Maintenant, ça ne sera pas facile, parce que vous le connaissez, l'Italie c'est une équipe redoutable, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Donc ce n'est pas gagné devant pour les Belges, mais je pense qu'il peut frapper un grand coup pour cette année, Nicolas.
Merci beaucoup. 10 minutes de jeu à Lyon, 0-0 entre la Belgique et l'Italie. Et à noter, messieurs, qu'une minute de silence a été respectée dans tous les fan zones de France. C'était ce soir en hommage aux victimes, évidemment, de la tuerie d'Orlando, ici aux États-Unis. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. Aujourd'hui, l'autre grand match, c'était évidemment l'Espagne. Le champion d'Europe en titre a réussi son entrée dans la compétition. Dans le groupe D, l'Espagne s'est imposée 1-0 face à la République tchèque à Toulouse sur un but de Piqué. Ça a été très très dur, ça a été long à se dessiner. Et finalement, Christian Mpanzu, on a dû faire appel aux anciens hein, puisque c'est Piqué qui a réussi à mettre le but victorieux à la 87e minute de jeu seulement. Hein.
Oui, vous l'avez dit, les plus anciens, puisque c'est Piqué qui marque, mais c'est surtout Andrés Iniesta qui lui adresse un caviar vraiment millimétré, un superbe centre dans la surface. Les deux anciens, deux joueurs parmi les plus expérimentés de cette sélection espagnole, une sélection espagnole qui a toujours cette facilité technique, on sent que ballon au pied, ils sont quasiment irréprochables. Les joueurs qui étaient face à eux, les Tchèques n'ont pas vraiment eu le ballon durant la rencontre, hein, une possession quasi inexistante pour les Tchèques, mais à force de faire tout le temps tourner le ballon entre les pieds de tous les joueurs, eh ben, l'objectif principal qui est d'aller marquer des buts n'est pas forcément atteint, et surtout face à une équipe comme la République tchèque qui a été très regroupée devant son but. Vous l'avez dit, à la 87e, il y a eu l'ouverture du score de l'Espagne, mais avant ça, il y a eu quand même de grosses alertes sur le but de David De Gea. Dans le dernier quart d'heure, De Gea a dû s'employer à deux reprises. Une fois, il a sorti une superbe parade pour dégager une belle frappe de Thomas Rosicki. Le capitaine Thomas Rosicki, je tiens à le dire, bientôt 36 ans, est toujours présent au sein de l'équipe de République tchèque. Et la deuxième fois, c'est son coéquipier Cesc Fabregas qui a dû sauver le ballon sur la ligne. Comme quoi, l'équipe d'Espagne n'était vraiment pas exempte de tout reproche. Et pour les prochains matchs, il va vraiment falloir faire attention pour les hommes de Vicente Del Bosque et ne pas se faire surprendre, puisque certes, offensivement, il n'y a quasiment aucun souci, hormis ce petit problème pour aller chercher les buts. Mais défensivement, on sent qu'il y a parfois des petites sautes de concentration de la part de Sergio Ramos ou de Gérard Piqué. Pour l'instant, on s'est rattrapé par De Gea et par d'autres équipiers. Mais il va vraiment falloir être vigilant pour les rencontres à suivre pour les Espagnols.
Merci Christian. On va retrouver à Libreville Jules Valentin. Oui, Jules Valentin, on le disait, hein, l'Espagne, championne d'Europe en titre. Mais l'Espagne, évidemment, après la déconfiture de la Coupe du Monde 2014, finalement, l'Espagne peut-elle vraiment conserver son titre cette année?
Oui, c'est difficile à dire, mais une chose est certaine, c'est que l'Espagne sera forcément un des favoris. Il ne faut pas peut-être trop se fier au premier match des grandes compétitions où les équipes les moins huppées ont encore toutes les ressources physiques pour gêner des équipes un peu plus fortes au bagage technique plus élevé. Mais dès après deux ou trois matchs, les autres trouvent leur marque et les jambes sont plus lourdes et à ce moment-là, la différence se fait petit à petit. Donc je crois que ce soit l'Espagne ou que ce soit l'Allemagne, c'est des équipes ou la France, c'est des équipes qui sont faites pour aller un peu loin.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va revenir, puisqu'on en parlait avec vous, évidemment, Jules Valentin, on va parler des hooligans, hein, russes et allemands, qui se sont tapés dessus violemment. Et malheureusement, il y a eu des blessés très sérieux à Marseille. C'était samedi, en marge du match entre les deux équipes, comptant pour le groupe B, un but partout. Mais la violence était dans le stade, notamment. Hein, on a vu ces images dramatiques. On en parlait avec vous, Jules Valentin, on en parlait sur l'antenne de VOA Afrique ce lundi. Mais Christian Ipanzou, peut-être les réactions en France, hein, certains estiment que le dispositif sécuritaire a été sous-évalué. Qu'en dit-on en France?
Écoutez, beaucoup de monde s'étonne, puisque il y a 18 ans, les Anglais, durant la Coupe du Monde 98, avaient fait également leur premier match à Marseille. Ça s'était passé de manière catastrophique avec des affrontements assez similaires. Et là, 18 ans après, un Angleterre-Russie qui était déjà classé comme rencontre à risque dès le mois de janvier de cette année, dès quasiment le tirage au sort, eh bien, de la part des autorités et françaises et anglaises et russes, puisque les trois autorités étaient présentes à Marseille, aux abords du stade, il n'y a pas eu de rehaussement de la sécurité. Et c'était vraiment très étonnant. Il y a quelques jours, on a eu droit à un témoignage d'un stadier qui était présent au sein d'une des tribunes à Marseille, au stade Vélodrome. Il affirmait que Russes et Anglais étaient dans le même virage d'une tribune, ce qui est quand même déjà très dangereux, enfin résolument dangereux, et n'étaient séparés que par une corde. Donc, il y avait vraiment... la sécurité n'a vraiment pas été au niveau d'une telle rencontre, sachant que dès le jeudi soir, donc à la veille du début de l'Euro, dès le jeudi soir, alors que la rencontre avait lieu le samedi, dès le jeudi soir, il y avait eu les premiers affrontements entre Russes et Anglais dans les rues de Marseille, et ni les autorités françaises, ni les autorités russes, ni les autorités anglaises n'ont fait un effort pour cette rencontre. C'est vraiment déplorable pour cet Euro qui est censé être une fête. Dans quelques jours, on aura une autre rencontre qui est censée être classée à risque, qui est Angleterre-Pays de Galles. C'est entre guillemets une petite
un derby, guerre ouais.
Patricide, entre Britanniques. On va voir ce qui va se passer. On espère vraiment que la sécurité sera rehaussée pour cette rencontre.
Parfait. Merci beaucoup, Christian Panzou sur Sporama. Allez, on va quand même parler de ce groupe F, hein, que certains considèrent comme l'un des plus faibles, peut-être le plus faible de la compétition. C'est le groupe, en tout cas, dans lequel figurent Cristiano Ronaldo et les Portugais. Et en guise de hors-d'œuvre, les Portugais de Cristiano Ronaldo qui vont déguster l'Islande, évidemment, pour une première participation dans une compétition internationale. Le sélectionneur islandais Lars Lagerbäck a estimé qu'il n'y avait pas de plan anti-Cristiano Ronaldo de prévu, même si son jeu a été analysé. L'autre rencontre de ce groupe, ce sera Autriche-Hongrie. Certains, évidemment, estiment que c'est une entrée en compétition plutôt facile pour les Portugais. Est-ce que c'est votre avis, Élisée Ongpatine, à Boïcon, au Bénin?
Pas du tout, Nicolas, puisque l'Islande s'est bataillée fortement pour pouvoir obtenir sa qualification pour cette compétition. N'oublions pas que cette formation a de très grands joueurs, notamment qui évoluent dans la première ligue anglaise, les frères Sigurdsson et notamment le vétéran Gudjonsson. Donc, c'est-à-dire que cette formation a de la valeur à revendre maintenant face au Portugal. Ce sera un autre match, puisque cette génération qui est à la recherche d'un trophée continental depuis 2004, le Portugal a avait organisé l'Euro à la maison, mais sans pouvoir remporter ce trophée, puisque battu en finale par la Grèce. Maintenant, Cristiano Ronaldo qui court derrière ce trophée. Donc, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour cette formation entraînée désormais par un entraîneur qui connaît bien sûr l'Europe. Donc, c'est-à-dire que ça va être un peu facile, c'est vrai, mais sur le terrain, ce sera autre chose, puisque ce sera un football à 11 et l'équipe d'Islande va certainement créer la surprise. Mais attention, Cristiano Ronaldo, qui est dans une forme étincelante, pourra amener cette équipe portugaise très loin.
Merci beaucoup. Et on va revenir évidemment sur cette équipe de France. Cette équipe de France poussive, évidemment. Il y avait ce un partout. On pensait arriver à un match nul, finalement, qui aurait été une bonne. Un bon reflet de la physionomie du match, léger avantage pour les Bleus. Et finalement, Dimitri Payet qui a propulsé la France vers la victoire et vers le bonheur. Amdinsi, qu'est-ce que vous avez pensé du comportement des Bleus sur ce premier match ?
Oui, ils ont gagné dans la douleur, mais l'essentiel c'était de s'imposer parce que un match d'ouverture n'est jamais facile. Mais il faut reconnaître aussi que cette équipe de la France n'est pas tellement talentueuse. Heureusement qu'il y a des joueurs qui ont le talent, petit de talent comme Dimitri Payet, qui a sorti quand même ce but magnifique pour permettre à la France quand même de démarrer cette compétition de la plus belle des manières. Mais attention, parce que quand tu regardes les matchs, on se rend compte qu'il n'y a plus de petites équipes. La Roumanie, c'est vrai, a joué quatre matchs et chance. La Roumanie pouvait décrocher le point du match nul. Mais heureusement pour la France, il y avait un joueur comme Dimitri Payet. Mais attention, pour pouvoir remporter l'Euro, comme la génération de Platini l'avait fait en 2002, pour pouvoir remporter une compétition qu'on organise comme la Coupe du Monde en 98, la France doit quand même hisser son niveau de jeu. La France doit montrer autre chose que ce qu'elle a montré face à la Roumanie, parce que nous allons assister à une compétition de très haut niveau. Donc si la France veut réussir l'organisation, si la France veut relever le défi de l'organisation et de la participation, il faut faire autre chose que ce que nous avons vu contre la Roumanie.
Oui, Jules Valentin, c'est un peu le constat. Certains s'ennuient un peu sur ce début d'Euro, à part peut-être le match Ukraine-Allemagne, ou alors peut-être une période entre la Croatie et la Turquie. Vous, quel est votre sentiment sur ces premières rencontres de l'Euro ?
Oui, je vous dirais franchement que généralement, les Coupes d'Europe sont moins fantaisistes que les Coupes d'Amérique latine ou bien les CAN. On a des équipes qui ont parfois des jeux similaires et qui ont des collectifs, un jeu plutôt académique et tactique et des collectifs bien rodés. Mais rarement on voit des gris-gris qui font se lever le public et qu'on sort. Donc ça, c'est d'abord la constatation générale. Mais il y a également le fait que le nivellement de valeur, aucune compétition, en dehors de l'Euro parmi les grandes compétitions, ne réunit autant d'équipes qui ont une marge de compétences aussi réduite. Donc, pratiquement toutes les équipes se valent, dont elles se neutralisent, et donc il ne faut pas être impatient. À partir des matchs couperets, nous aurons des matchs très intéressants.
Et puis on va parler de l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est imposée 2-0, évidemment. Élisée Ungpattin, Bastian Schweinsteiger, je vais réussir à prononcer son nom, qui avait inscrit ce deuxième but, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé du champion du monde en titre, que beaucoup considèrent comme le favori sur cette compétition ?
Oui, favori, puisque ayant remporté la dernière Coupe du Monde, favori, également avec de grands joueurs, de grands noms, avec des joueurs du Bayern de Munich, quand on sait que depuis plus de 5 ans, le Bayern de Munich lutte pour la Ligue des Champions en Europe avec de grands joueurs, Müller, et pour ne citer que ce dernier qui est actuellement dans une forme considérable, avec beaucoup de buts inscrits avec la Mannschaft. Je crois qu'il a fait confiance à ses joueurs expérimentés, notamment Mesut Ozil, Toni Kroos, Khedira et le dernier buteur de ce mondial, Mario Götze, avec ce jeune Julian Draxler qui est en train d'évoluer considérablement dans la Bundesliga allemande. C'est-à-dire que l'Allemagne doit hausser le niveau de son jeu si elle veut bien sûr remporter cette Coupe d'Europe. J'allais dire maintenant la défense, franchement, ces défenseurs doivent, en tout cas, le sélectionneur doit revoir son schéma puisque hier, franchement, cette défense n'a pas convaincu. Et là, si cette formation veut aller très loin, ça doit passer par la défense. C'est vrai qu'elle a un très bon gardien de but, Manuel Neuer. Maintenant, dans l'entrejeu, il reste considérablement. Mais pour moi, l'Allemagne reste et demeure l'équipe favorite, archi favorite pour remporter cette Coupe d'Europe.
Merci beaucoup. Élisée Ongpatine, on rappelle pour le moment un peu plus de 20 minutes de jeu à Lyon entre l'Italie et la Belgique. Et pour le moment, 0-0 dans ce match évidemment du groupe E. Affaire à suivre sur VOA Afrique. Allez, on parle à présent des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux du Cameroun ont battu les Guerriers du Zimbabwe par 3-0 ce dimanche. Ils se sont qualifiés évidemment pour ce troisième tour au match aller. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Il s'agissait du premier match officiel disputé dans le nouveau stade de Bafoussam, récemment inauguré. On va parler également du Mali. Le Mali qui s'impose largement face à la Mauritanie. 4-1, c'était hier dimanche au stade Modibo Keïta. On va commencer par écouter l'entraîneur des Maliens. On va écouter Baïba.
Ce qui a marché, c'est que c'est l'état d'esprit du groupe qui a bien marché aujourd'hui. Parce que si tu vois, aujourd'hui, on arrive à marquer encore 4 buts. Les consignes ont été respectées. Je ne fais que remercier tout le groupe et puis encourager encore les Mauritaniens qui n'ont pas démérité. C'est une équipe, tout le monde joue pour le Mali. On n'a pas quelqu'un indispensable dans le groupe. Et puis on va commencer à préparer le dernier match contre Burkina. Ça ne sera pas quelque chose qui ne sera pas facile. Je pense que, Inch'Allah, on va remporter les deux victoires.
Voilà, Baïba, le sélectionneur du Mali. On écoute à présent le sélectionneur de la Mauritanie, Vincent Rotureau.
Je rends hommage déjà à cette belle équipe du Mali, parce que c'est une très bonne équipe. Je dirais ce qu'il faut retenir au travers donc du résultat, c'est surtout que j'ai vu une équipe de la Mauritanie qui n'a pas baissé les bras, qui a tout donné, qui a donné son maximum, qui a pris, je dirais, 4-1 certes, mais qui a montré, je dirais, une belle image du football.
3-0 à Mauritanie au match aller, 4-1 au match retour.
Mais c'est la loi du foot, je veux dire, il faut savoir reconnaître qu'à un moment de temps, la Mauritanie a produit quelque chose qui est certes intéressant, mais insuffisant par rapport à l'équipe du Mali, qui a une très bonne promotion donc de jeunes joueurs de football. Mais la Mauritanie aujourd'hui, il faut qu'elle continue à travailler, à avancer. C'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien, notamment avec Léa ou avec les joueurs donc locaux. Et il faut qu'on continue à essayer à avancer pour pouvoir obtenir d'autres résultats.
Vincent Rotureau, le sélectionneur de la Mauritanie. Et puis l'équipe nationale du Sénégal, elle a décroché sa qualification pour cette CAN Zambie 2017 en s'imposant devant la Tunisie. 2-0. Les Lionceaux avaient déjà remporté le match aller à Tunis. 2-1. On fait le point avec Amdine Sy à Dakar pour VOA Afrique.
L'équipe nationale U20 du Sénégal a validé son ticket pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie prévue en 2017. Les Lionceaux se sont imposés à nouveau face aux Aiglons de Carthage de la Tunisie sur le score de 2-0. Entré en seconde période, Aliou Badji a été le grand artisan de cette qualification du Sénégal. En effet, l'attaquant du Casasport a réalisé un doublé en faisant trembler les filets à la 61e et 90e minute. Une qualification qui peut propulser le football sénégalais selon le coach Joseph Koto.
Je pense que ce match-là a été un match important pour nous parce que, vous savez, le football, rien n'est gagné avant. Moi, je ne crois pas aux meilleures équipes sur le papier, c'est sur le terrain. Le verdict, c'est sur le terrain, c'est ce que j'ai fait comprendre les joueurs. Et ils l'ont compris, il fallait se battre. Le Sénégal a besoin de ce genre de victoire pour pouvoir propulser notre football.
Finaliste malheureux de la dernière édition et demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Sénégal affrontera le Ghana lors du troisième et dernier tour. Amédine Sy, Dakar, VOA Afrique.
Voilà, merci Amédine. Et puis, évidemment, l'autre grand tournoi de football, hein, ça se déroule ici aux États-Unis, la Copa América, la Coupe du Centenaire. Et on va poser la question à Elise Ongpatine, hein, avec les malheurs du Brésil. Évidemment, le Brésil battu par le Pérou. Le Brésil, pas du tout convaincant dans cette Coupe sud-américaine. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, selon vous, pour le Brésil?
Bien évidemment, Nicolas, c'est le choix de Dunga qui n'a pas du tout répondu, hein, au nom d'une grande compétition, hein, qu'est la Copa América. De très grands joueurs ont été laissés, c'est vrai, d'autres pour à cause des Jeux Olympiques de Rio, mais d'autres ont été laissés pour que personne ne comprend pourquoi Dunga a laissé de grands joueurs à la maison. Donc c'est dire que d'abord le choix de Dunga n'a pas été du tout apprécié par le public sportif. C'est une grande déception. Le Brésil n'a marqué contre Haïti, face au Pérou, le Brésil n'a pas pu inscrire un seul but, notamment face à l'Équateur également. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une grande déviation de la part de cette sélection qui faisait partie des favoris. Maintenant, est-ce qu'il faut changer Dunga pour pouvoir remporter d'autres compétitions? Puisqu'on se rappelle, hein, dans un peu de temps, le Brésil va organiser la prochaine Copa América. Donc, attention à cette sélection si elle veut encore renouer avec un titre de champion d'Amérique remporté dernièrement par le vrai Ronaldo, il y a très très longtemps, face à l'Uruguay en finale.
Merci beaucoup Élisée. Et puis on va dire un mot de basket, hein. C'est cette nuit qu'aura lieu le cinquième match de la grande finale NBA entre Golden State et Cleveland. Golden State qui mène pour le moment 3 victoires à 1. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce Sporama. On va remercier un par un. Tout d'abord Jules Valentin de Gouet à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
On va faire un coucou à Paris à Christian Mpanzou. Bonsoir Christian.
Bonsoir Nicolas, bonne soirée à tous les auditeurs.
On va saluer Amédine Sy qui était à Dakar pour VOA Afrique. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à lundi pour un prochain numéro de Sporama.
Un coucou également à Élisée Ongpatine au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et un grand coucou à nos auditeurs de Mali et par l'intermédiaire de Radio Clégou.
Et on va remercier Joselle Morissin et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde de cette émission. Nicolas Pinault était à la présentation. Excellente soirée à tous pour VOA Afrique.